Bien, je me fends de la première question. Merci en tout cas pour votre présentation. J'ai trouvé vraiment intéressante. Donc, je n'ai pas encore lu l'ouvrage, mais en tout cas, ça ne saurait tarder. J'ai été particulièrement sensible à ce que vous avez exposé justement sur l'entrée sur le terrain, sur la négociation, ce qu'on connaît par ailleurs en anthropologie, mais qu'on ne connaît jamais assez, puisque chaque contexte est particulier, et vous avez su le dire, c'est jamais, Léo, tu l'as bien précisé, c'est jamais aussi simple. Hein, c'est pas, les chercheurs ne sont pas accueillis à bras ouverts en disant vous allez pouvoir changer la situation des personnes qu'elles sont censées étudier. Mais j'aimerais avoir votre avis sur le rapport à l'écriture. Finalement, quand on est engagé, vous l'avez dit, mais militant, c'est encore autre chose. Qu'est-ce qu'on s'autorise à dire ? Et je fais référence à une chose, un fascicule, je ne sais pas si vous en avez eu connaissance, que je vais prochainement travailler avec mes étudiants parce qu'il est sorti récemment. C'est un fascicule, j'ai retrouvé le titre, non sans mal, qui est d'une violence extrême, qui s'intitule « N'étudiez pas les pauvres et les sans-pouvoir, tout ce que vous direz sera retenu contre eux ». Ça a malheureusement circulé, vous en avez entendu parler ? Ça a malheureusement circulé quand même dans les sphères de la recherche, donc ça me semble nécessaire d'être repris. C'est extrêmement violent vis-à-vis de la chercheuse, même s'il y a des choses qui étaient limites. En tout cas, pour le dire rapidement, c'est une chercheuse qui a fait un travail, vous me corrigerez, hein, puisque je l'ai lu il y a longtemps, je pense, dans une organisation LGBT féministe. Pardon ?
Dans un squat.
Dans un squat, et qui elle-même en faisait partie. Du coup, elle était militante et elle a fait une thèse de sociologie. Et au moment de la publication de sa thèse, qui a été relue par celles et ceux qui ont contribué à la thèse, eh bien, ne se sont pas retrouvés dans ce qui a été dit, ou alors pensaient avoir des discussions intimes qui se sont retrouvées exposées au moment dans la thèse. Donc tout ça a été... je pense qu'il y a eu de la maladresse, des maladresses vis-à-vis de la chercheuse, mais ça lui est revenu en pleine face. Ça a été extrêmement violent, parce qu'il suffit de faire un copier-coller des différentes citations, et on retrouve qui est la personne qui a soutenu la thèse. C'est relativement simple de le faire. Donc tout ça pour dire qu'il y a cet exemple-là, et j'aimerais savoir, dans le contexte qui était le vôtre, donc d'engagement, de militantisme, pas, peut-être pas dans ce cadre-là, mais comment vous évoluez sur cette ligne de crête de qu'est-ce que je peux m'autoriser à dire, finalement, quand je suis impliquée, militant, militante, mais aussi chercheuse, parce qu'il y a quand même ces deux, comment dire, ces deux pans qu'on essaie de mener ensemble, et vous le dites, il y a toujours des savoirs, des points de vue situés, mais au moment du retour, hein, comment vous l'avez géré si vous y avez été exposé ? Alors j'adresse la personne à la question à personne en particulier.
Ah ouais, c'est une question hyper touchy, et elle en a vraiment pris plein la tronche, cette chercheuse. Enfin, ça allait assez loin sur genre, je crois que les gens dans les labos étaient contactés de manière anonyme pour dire il faut pas travailler avec cette personne. Enfin, vraiment, elle a été totalement marginalisée dans les espaces, et à la fois académiques et à la fois de ces espaces militants, affectifs, amicaux. Et ça a été très douloureux, et vraiment, oui, cette brochure, moi, elle m'est très, très, très mal à l'aise. Et vraiment, j'aimerais pas être à sa place, donc désolée pour elle, quoi. Je pense qu'il y a pas. Enfin, c'est vraiment le truc de la confiance et de la trahison. Enfin, le truc de dire écrire, c'est trahir, ça va. C'est toujours. On nous dit toujours ça dans les espaces d'enseignement, et c'est à la fois faux et à la fois vrai. Et à la fois, enfin, pour moi, ça vient enfermer en fait toute la complexité de la question dans un truc de binarité de oui ou non. Là, j'ai l'impression que oui, elle a fait elle a fait peut-être des maladresses, mais à la fois elle a fait relire ses trucs, et du coup ça lui est arrivé dans la tête. Après, c'est que du coup les espaces académiques n'ont pas été en soutien, et on est aussi dans un contexte de judiciarisation de la recherche. Là, on est dans des espaces, voilà, dans des squats, dans des espaces minoritaires, mais en fait, quand on fait des recherches sur les dominants et que il y a des plaintes qui sont faites, je sais pas, par des grosses entreprises avec des avocats, des bardés d'avocats et tout, et que les espaces académiques, les institutions ne soutiennent pas, bah c'est aussi très 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 difficile, et il y a vraiment aussi un enjeu à ça. Et après, sur le fait de pas, de qu'est-ce qu'on fait quand on veut pas, quand on nous, on se pose la question de est-ce qu'on visibilise certaines pratiques, notamment pas légales ou qui sont à la limite du légal quand on est chercheur et qu'on travaille sur des minorités qui essayent de se défendre. Est-ce que c'est cette question de visibiliser les pratiques, c'est pour ça qu'on parle aussi de désidéalisation, de dire non, en fait, il y a peut-être des choses qui amènent à rester secrètes et cachées, et que particulièrement quand on travaille sur des terrains qui sont aux marges du droit, parce que c'est des squats ou parce que c'est des personnes qui sont sans pape, peut-être qu'il faut savoir se taire ou savoir ne pas raconter tout dans certains écrits, ou trouver des régimes d'anonymisation qui peuvent être à différentes strates. Moi, ma thèse, elle s'est faite pendant un MeToo dans l'association sur laquelle je travaillais, donc j'ai eu beaucoup de récits de violences sexuelles qui me sont apparus, je pensais pas du tout et j'étais pas prêt à ça, donc à la fois c'était pas facile pour moi et à la fois je me suis dit ok, qu'est-ce que je mets en place pour que là on retrouve plus personne. C'est genre, là ça devient un salarié, une militante, et c'est des régimes d'anonymisation qui ont été travaillés, retravaillés, relus, qui ont été angoissés d'écriture, mais qui, je crois, à la fin permettent de pas retrouver du tout les gens et les contextes. Et du coup, c'est travailler ces différents registres d'anonymisation et dans un contexte d'incitation à la au surproductivisme des articles, des papiers, de il faut écrire vite, etc. C'est aussi savoir prendre le temps des militants, et le temps des militants, c'est parfois de dire en fait là, il faut pas dans les prochaines années que tu publies là ce que je viens de te raconter dans cette discussion là, et c'est de pouvoir du coup respecter ça dans un cadre éthique qui déborde totalement des catégories de l'éthique formelle, en fait, de pouvoir dire ça, notamment dans le contexte qui nous arrive en pleine face. Enfin, j'ai pas envie de dire que l'extrême droite va passer, mais en vrai, faire des recherches sur des questions minoritaires, quand soi-même on est des chercheurs minoritaires, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis et dans d'autres pays, ça appelle à se dire qu'est-ce qu'on fait des données là qu'on collecte sur des personnes qui sont particulièrement cibles des politiques xénophobes et fascistes qui se mettent en place pas si doucement que ça. Et voilà. Et du coup, j'ai pas de réponse. Peut-être mes camarades, ils ont des réponses.
Non, j'ai pas forcément plus de réponses, mais peut-être un élément à prendre en compte, c'est la question du cadre dans lequel se déroule la recherche. Et là, ce que tu mentionnais, c'est une recherche qui s'est déroulée dans un squat, d'après ce que j'ai compris aussi, la personne décrivait des tranches de vie qui n'étaient pas forcément hyper. Enfin, les personnes comprenaient pas trop pourquoi elle mettait ça en avant. Voilà. Mais du coup, il y a la question du cadre aussi intimiste de cette recherche, ces personnes avaient des liens intimes, tout ça, et d'autres recherches qui vont pouvoir se dérouler dans des cadres plus où tout le monde a accès aux données, par exemple. Enfin, je pense à des recherches comme celle que j'ai faite sur un groupe de discussion Facebook où les données sont accessibles à tout le monde et où il y a quand même cette question de l'anonymat qui est discutée et qui est normal d'être prise en compte. Mais du coup, enfin, peut-être faire attention à le cadre dans lequel se déroule la recherche et les enjeux qu'il y a, qui sont internes ou externes à ce cadre-là. Et voilà.
Je ne sais pas trop ce que je vais rajouter à ça. Un des éléments, peut-être plutôt tiré de mon expérience. Une manière de procéder, c'était de mêler en fait approche ethnographique dans laquelle en fait on participe. Alors à couvert, c'est toujours la question. C'est un peu déclaré auprès de certains et on peut pas être déclaré auprès de tout le monde. Enfin, les gens tournent quand on est dans des associations, etc. Donc en fait, là, on observe, on a des informations et tout ça. Et ensuite, mêler ça à des entretiens qui, ceux-là, vont être déclarés. Et donc, en fait, les discussions informelles qu'on peut avoir peuvent alimenter des questions qu'on va pouvoir aller chercher en entretien ou aller creuser en entretien, et des entretiens qui sont déclarés et ouvertement liés à la recherche. C'est la manière dont j'ai essayé de procéder en finalement mobilisant dans les écrits majoritairement des entretiens ou ce qui m'avait été délivré en connaissance de cause de la recherche en cours. Voilà, j'ai essayé de distinguer ça au mieux. Et ensuite, oui, c'est sûr que se pose la question tout du long de jusqu'où on va sur les questions politiques, mais ça après... ça nécessite aussi de faire des projections. Alors on en fait certainement qu'on en rate d'autres. Et après, ouais, c'est le chercheur face à, ou la chercheuse face à lui-même ou elle-même. Et face à son terrain aussi et aux personnes auprès de qui il ou elle enquête, mais oui, ça, c'est forcément partiel, quoi. Enfin, on tâtonne, on peut pas savoir comment ça sera repris, comment ça sera, voilà. Sur la question, ouais, après de la restitution, bah oui, faut en parler idéalement avec les personnes. Moi, j'avais tendance à restituer certains éléments en fait d'analyse, premiers éléments d'analyse, avec les personnes que j'ai suivies au long cours en fait pendant sur des périodes de jusqu'à 5 ans. Et donc du coup, quand j'avais des premiers éléments d'analyse qui ressortaient dans plusieurs entretiens et tout ça, je les soumettais en fait à leur appréciation pour voir ce qu'ils pouvaient en dire et si ça leur semblait important d'en parler ou pas. Et donc on a des éléments comme ça dans la discussion là qui peut être informel et pas dans le cadre d'un entretien où le recueil est déclaré, mais des éléments d'orientation en fait qui permettent d'informer un peu plus et en fait de s'imprégner. Ça participe aussi d'une imprégnation du terrain et de prendre conscience de ce qui des craintes en fait des personnes, des risques encourus, etc., un peu plus, et de s'ajuster en fonction. Mais ouais, pas de recette miracle.
Pardon, juste pour finir sur cette question, enfin pour revenir sur ce texte, moi je suis pas aussi tranchée que vous sur la finalité de, enfin sur la violence du texte ou quoi. Je pense que c'est une expérience qui a été très violente pour les personnes qui l'ont vécue et que ça a le mérite en fait de, même si on le prend pas, enfin de pas tout prendre pour argent comptant, mais en tout cas de le lire et de prendre en compte aussi à quel point ça a pu être, certaines choses ont pu être violentes et ce qui est dit de cette violence là je pense que c'est aussi important pour pouvoir tracer aussi des lignes éthiques dans nos propres recherches. Voilà, en tout cas ça, c'est une expérience qui a été, oui, en effet très violente pour la personne qui l'a vécue, mais aussi très violente pour les personnes qui ont écrit ce texte par la suite.
La violence est réciproque, mais quand on lit le fascicule, ces personnes jettent l'opprobre sur le monde universitaire. C'est-à-dire que les universitaires sont que des gens qui fonctionnent pour leur carrière, qui travaillent pour leur carrière. De toute manière, tout est utilitaire. Ça va trop loin. Je pense que des vraies questions sont posées dans ce fascicule. Il y a des vraies qui ne sont pas nouvelles par ailleurs. Hein, l'engagement, c'est des vraies questions qui sont posées. Mais le règlement de compte prend trop de place par rapport à ces vraies questions-là. Et la violence est bien sûr des deux côtés. Et je crois que Léo a aussi soumis une piste intéressante, c'est qu'il y a différents temps. Et le temps du militantisme n'est pas le temps de la recherche et pas le temps du politique non plus. Donc ça crée des temps de restitution possible. Est-ce que je peux dire ça ? Oui, mais peut-être pas maintenant. C'est peut-être pas le moment de le faire. Pas le moment de le faire, parce que quand on voit des groupes militants qui ont besoin de temps de se structurer, ne peuvent pas affronter de telles publications des résultats à ce moment-là. Enfin, en tout cas, c'est des choses, et comme tu le disais, Syria, qui doivent se discuter. Hein, c'est, pourquoi pas ? Moi, ça m'est arrivé de donner à lire un papier avant de le soumettre. C'est à double tranchant, parce qu'on peut avoir des retours, mais ce n'est pas inintéressant. Merci en tout cas pour vos réponses.
Ça pose la question de la pression aussi qui est mise sur les jeunes chercheurs pour publier leur thèse le plus vite possible et pour, enfin voilà, c'est ce qui s'est un peu passé aussi dans ce cas-là.
Ouais.
Relu justement. Pardon. Vous aviez pas dit que ça avait été relu, enfin ça avait été relu par des personnes concernées dont les témoignages étaient présentés ou quoi?
Oui, juste avant la publication de la thèse.
C'est.
Bah du coup le temps de la recherche fait que la thèse a été publiée sans.
Pour information, il faut le lire, ce fascicule, mais ne pas le prendre pour argent comptant, vraiment. Mais en tout cas, c'est, enfin, moi, j'ai travaillé en méthodo avec les étudiants parce qu'il circule. Pardon, qui voulait...
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Je vais aller à côté là-bas, demander.
Eric, on a droit à encore une question ? Oui, alors, juste une question. Tu m'entends ? Oui. Juste par rapport à la question, enfin, aux interrogations, aux évocations des difficultés en fait des jeunes chercheurs par rapport à des questions de santé mentale ou d'inquiétude, de difficultés très grandes dans ces expériences de terrain. Alors, il y a deux questions qui vont avec ça. La première question, c'est est-ce que vous avez dit plusieurs fois les uns et les autres que les jeunes chercheurs étaient souvent isolés? Alors, je ne sais pas si vous vouliez dire isolés sur leur terrain ou isolés, disons, de manière plus générale dans le processus de recherche. Et donc, la question qui va avec, c'est est-ce que finalement le groupe que vous avez constitué ou les groupes que vous constituez ou les réseaux, disons, actifs, est-ce qu'ils ont pour objet aussi, enfin, une de leurs fonctions consiste, est-ce que ça fonctionne, de réguler, enfin de créer les conditions, disons, d'une régulation collective de ce type de difficulté, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est que, en fait, dans tous les métiers, enfin, c'est à ça que ça m'a fait penser, dans tous les métiers où on est en contact direct avec des personnes, je pense en particulier au travail social, mais ça, on pourrait l'élargir beaucoup plus. Il y a des séquences professionnelles ou des moments professionnels ou des terrains professionnels qui sont particulièrement difficiles, dans lesquels sont organisés donc, ce qu'on appelle des supervisions professionnelles. Et donc, je ne sais pas si c'est à ça que vous faisiez référence en parlant donc de dispositifs institutionnels qu'il faudrait mettre en place. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose que les écoles doctorales, en l'occurrence, pourraient développer de manière assez utile. Ce n'est pas la première fois que j'entends parler de ces difficultés. Moi, je travaille plutôt dans le domaine du handicap, mais les questions se posent un peu de la même manière, je crois. Et finalement, c'est un espace dans lequel ces possibilités de supervision sont associées à un monde professionnel dans lequel ça se pratique. Voilà. Donc il y a des étudiants, chercheurs, qui ont la possibilité de participer à des groupes de supervision professionnelle. Eux, ils parlent de leur travail professionnel de chercheur, pendant que les autres parlent de leur travail professionnel d'éducateur ou je ne sais quoi. Bon. Donc il y a des dispositifs comme ça qui peuvent exister, qui sont très, disons, très actifs, très efficaces. Donc je voulais poser ces deux questions-là, parce que je pense qu'effectivement, dans les laboratoires, il y a quand même un travail qui est fait par rapport à ça, mais qui ne semble pas, disons, suffisant, enfin, d'après ce que j'entends.
Moi, je suis chaud. Oui, bah, merci. Effectivement, ce n'est pas suffisant, et les expériences qui ont eu lieu, notamment, c'était des expériences mises en place par des doctorants où en fait, ça a été des mois et des mois et des mois de travail pour mettre en place ces groupes de supervision collective et individuelle, pour que finalement, dans le budget de l'année d'après, ce soit remis en cause. Enfin, en fait, c'est des choses qui sont peu pérennes, et c'est soit sur des budgets de recherche. Enfin, c'était il y a eu un colloque sur l'éthique en terrain sensible, et il y avait une chercheuse, Hermel Andreau, qui travaille en santé et aussi sur le VIH, qui disait moi j'ai budgété ça parce que dans mon programme de recherche, on est toutes tombées malades au bout d'un moment. Enfin, on travaillait avec des femmes en hôtel, enfin des femmes étrangères sans papier qui vivent en hôtel social et qui c'était des entretiens très difficiles, très douloureux, sur des parcours de vie avec énormément de violence. Et en fait, on a tout craqué à des moments différents. Et en fait, il y avait eu ce truc qui avait été où elle avait réussi à mettre ça en place. Mais en fait, c'était parce qu'elle, elle était PI d'un projet et qui avait des sous. Mais en fait, c'est aussi la question de la recherche par projet. Qui peut avoir accès à ça, sur qui ça ruisselle et qui reste éloigné de ces réseaux-là. Et oui, sur la question des réseaux, le réseau des jeunes chercheurs VIH en a été un. Aussi, on contextualise, c'est que le livre, il sort en 2025, mais il y a la plupart des recherches qui ont été menées pendant le Covid. La question de l'isolement des chercheurs pendant le Covid, des jeunes chercheurs, c'était pas un long fleuve tranquille. Et c'est aussi ce contexte-là qui produit ce livre et qui produit aussi cette volonté de se mettre en lien. Et moi, là, je peux parler juste de la recherche que j'ai menée. Charlotte Florsheim était dans le même programme de recherche que moi à ce moment-là, qui a aussi écrit sur qu'est-ce que c'est de faire de la recherche collective et d'avoir, on était un groupe de quatre à faire une enquête sur une association de lutte contre le sida. Et en fait, on partageait des certitudes communes au plan politique, et scientifiques qui permettaient, en fait, et on était plutôt des personnes sympathiques, et où du coup ça permettait en fait d'avoir des moments de débrief après des entretiens un peu tendus, faire des entretiens à plusieurs, de pouvoir débrief ensuite si on avait fait des observations sur des trucs difficiles, douloureux. Moi j'en parle dans mon papier parce que j'ai vécu un deuil sur mon terrain et je l'ai appris alors que j'avais appris qu'un ami s'était suicidé, j'étais entourée de mes collègues de recherche et ça avait des effets sur ma recherche parce que c'était en lien avec mon terrain et en fait c'est des gens qui ont pris soin de moi et on a pris soin les uns des autres et en fait c'est pas gneugneux, enfin désolé là c'est le moment de tirer l'arme, mais en fait c'est vraiment des choses importantes en fait, enfin le travail du care et le soin et tout ce que les héritages de lutte féministe ont apporté à ça ont des effets concrets sur nos manières dont on va juste durer dans la recherche en fait. Parce que le nombre de personnes qui partent en claquant la porte, il y a beaucoup de personnes qui sont aussi des minorités sur différents spectres de la minorité, que ce soit de genre, de race, des personnes handi, qui arrêtent les recherches après le master, et qui travaillent déjà sur des sujets minoritaires. Et en fait, ça a des effets en fait, de silo, des recherches qui ne vont pas être publiées. On ne va pas connaître, on ne va pas avoir de savoir sur ces questions-là. Ça va être que des personnes qui vont ensuite quitter la recherche. Et en fait, ça a des effets sur quels sujets sont mieux connus, quels budgets vont être alloués, etc. Enfin, c'est vraiment des enjeux politiques et scientifiques. Et du coup, c'était pour ça qu'on... Oui, du coup, ça va dans le sens. Et je trouve ça chouette de savoir que dans d'autres espaces... académique selon les objets, en fait on peut profiter en fait des espaces de supervision et de ces cultures professionnelles en fait des espaces sur lesquels on travaille qui peuvent infuser aussi pour nous quoi.
Bon, je n'ai pas grand chose à ajouter mis à part peut-être plus précisément sur le réseau des jeunes chercheurs sur celui-ci en particulier. Bah, comme beaucoup de réseaux, pour l'instant, un des trucs les plus réguliers, c'est les webinaires ou les séminaires. Et là, ça permet d'échanger sur les pratiques. Enfin, c'est vraiment un temps dédié à ça aussi. Mais c'est pas suffisant, comme dit Léo. Enfin, je rejoins totalement ce que tu dis. C'est vraiment pas suffisant. Et il faut s'inspirer aussi de dispositifs qui sont mis en place marginalement, comme celui que tu as cité, de EthnoAide. Pour faire de la recherche de la meilleure recherche et pour prendre soin en effet de nous.
Et pour finir toujours sur ce que peut apporter le réseau, c'est aussi tu parlais d'isolement, est-ce qu'on est isolé dans l'accompagnement et tout ça, je pense qu'il y a des choses peut-être différentes entre l'accompagnement scientifique où on peut ne pas forcément être isolé, c'est le cas des fois mais pas forcément tout le temps, et l'isolement qui peut être aussi thématique avec des thématiques de recherche où on se sent plus isolé dans nos labos, ou alors on a des terrains qui sont, c'était mon cas où j'étais rattaché à Montpellier, mon terrain est à Paris, donc des formes d'isolement qui peuvent être diverses, et en fait sans que ce soit la panacée, en tout cas se retrouver entre jeunes chercheurs qui travaillent sur des thématiques proches, ça nous permet un petit peu de décompresser, de se filer aussi des contacts aussi quand on est bloqué aussi sur des aspects plus pratico-pratiques. Ça permet aussi de simplement discuter dans des moments off aussi, au-delà de séminaires et tout ça. Et puis, ça fait du bien simplement comme de voir des amis, quoi. Voilà.
Peut-être une dernière question. On peut terminer là-dessus. Hein. Ah. Dernière question, attention.
Oula, attention. Mais moi, j'avais juste une question sur le contrôle éthique. Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça. Parce que c'est juste, vous avez parlé du fait qu'il y avait... Bon, moi, je suis en master d'anthropologie, donc j'ai l'impression d'à peine avoir fait mes premiers pas dans le monde de la recherche, donc je suis un peu perdue. Mais c'est juste que, vous avez parlé du contrôle éthique, du fait que, du coup, il y a aussi une binarité sur ce qui est éthique et ce qui n'est pas éthique. Et je me demandais, du coup, si... C'était déjà arrivé sur vos terrains, etc., de vous rendre compte que le contrôle éthique faisait obstacle à votre propre éthique. Parce que s'il y a une éthique binaire, il y a un côté où c'est d'autres personnes qui décident de ce qui est éthique ou pas. Et si du coup, c'était déjà arrivé qu'il y a un problème en fait, pour vous par rapport à ça. Voilà.
Oui, ben ma contribution, justement, c'est un peu un enchaînement de toutes les dissonances entre ma vision de l'éthique et la vision de l'éthique des personnes ou représentants d'institutions que j'ai pu rencontrer. Et en fait, comment je me suis confronté avec un chef de service qui avait sa vision de l'éthique, que je suspecte d'être très intéressé pour refuser un terrain et refuser finalement l'accès ou une production de connaissances qui... de son point de vue, pourrait le desservir, ou en tout cas une crainte dans ce sens-là. Ça a été contacter l'OFPRA, qui est l'Office de protection des réfugiés et apatrides, qui finalement, en fait, ils recueillent un certain nombre de données sur des dossiers, etc. Et quand je me suis rapproché d'eux pour avoir accès à ces données, pour en fait situer ma population d'études, essayer de faire des espèces de traitements statistiques, bah en fait, la réponse a été non, ce n'est pas éthique, on est là pour la protection des personnes, de leurs données et tout ça, alors que paradoxalement, d'autres contacts que j'avais dans l'institution me disaient qu'eux, en interne, pouvaient avoir accès à ces données-là. Donc bon, et tout ça, je le discute un peu là-dedans. Donc ça, c'est plutôt pour... ça reste un cadre pseudo-formel, alors inventé ou pas, par des institutions pour refuser des accès, enfin utiliser, on va dire. Et ensuite, par contre, ça s'applique particulièrement au terrain en lien avec la santé, mais potentiellement en lien avec le RGPD, etc., à tous les terrains, de plus en plus. Et il y a la nécessité, ça se fait pas toujours, pas encore toujours en anthropologie, en sociologie, etc., en sciences sociales globalement, mais un passage nécessaire devant un comité d'éthique et de recherche à l'échelle de l'université, auprès de qui on est censé présenter notre projet, la méthodologie, et qui est censé... normalement, il n'a pas un rôle, il ne peut pas interdire. Sauf que dans les faits, quand on nous a dit ça serait bien que vous revoyiez ça, on se sent un peu en difficulté de dire non, je m'en fous et je ne suis pas d'accord. Donc c'est un peu entre deux. Là-dessus, j'en profite pour passer un appel aux collègues qui sont plus avancés dans les carrières. Il y avait une intervention très intéressante, une table ronde à l'AFS cette année, à le congrès de l'Association française de sociologie, avec un membre de comité d'éthique, donc sociologue, il me semble, membre de comité d'éthique au sein de l'INSERM, et justement qui expliquait ça, que ces comités d'éthique et de recherche ne sont pas là pour interdire, mais plutôt pour accompagner, pointer l'attention des chercheurs sur certains aspects de leur recherche, etc. Et il évoquait aussi la difficulté en tant que seul représentant des sciences sociales, ou la minorité en fait des représentants des sciences sociales dans ces comités, leur difficulté en fait à faire comprendre aux autres personnes d'autres disciplines qui n'ont pas forcément les mêmes démarches, les mêmes approches méthodologiques, à faire comprendre en fait comment il fallait en fait adapter les avis à nos disciplines. Et il incitait justement, il passait un appel à tous les collègues en sciences sociales de se rapprocher dans les universités de ces comités d'éthique pour que justement il y ait un regard qui soit propre aux disciplines et qui soit plus adapté.
Oui, plus il y aura de chercheurs en sciences sociales dans les comités d'éthique et plus les choses vont évoluer aussi. Et juste, je voulais, on a oublié de préciser, je pense, au début de la session, que le livre il est disponible en PDF sur le site de la NRS, sur le site de l'Agence nationale de recherche sur le SIDA. En téléchargement.
Téléchargement libre.
Libre, ok. Et gratuit ?
Et gratuit.
Et gratuit, voilà, ça c'est important. Deux choses pour terminer. On va déjà remercier et applaudir nos invités. Un grand merci pour cet échange. Et vous ne partirez pas sans l'information du prochain bistrot des œnologues qui aura lieu le mois prochain, mardi 10 février, à la brasserie Le Dôme ici, à 20h, c'est avec Benoît Trépied, Décoloniser le Kanaky Nouvelle-Calédonie. Voilà. Donc vous êtes fortement invités à participer à ce prochain bistrot des œnologues. Grand merci à tous. Passez une bonne fin de soirée.